Une production des studios Bars.
Bonjour et bienvenue au podcast Cerveau unique en équilibre. Je me présente en premier. Je suis Guylaine Carrière. J'ai été psychoéducatrice 23 ans. Je suis maintenant thérapeute en relation d'aide et hypnothérapeute à la clinique que j'ai créée qui se nomme SOS Hypnosis à Laval. Je suis par contre très souvent en ligne partout dans le monde avec 5 différentes langues. Dans le fond, mon expertise se situe surtout au niveau de l'évaluation des familles neurodivergentes. Donc, quand on fait des demandes d'aide, ce que j'aime beaucoup, c'est avoir tous les morceaux de casse-tête dans mon bureau. Donc, papa, maman et les enfants. Comme ça, je peux rapidement me faire une tête de, bon, qui réfléchit comment, qui agit comment, pour être capable de, le mieux possible, aider la famille avec leurs besoins. Je vous présente la collègue en or avec qui on a décidé de créer ce podcast qui est notre premier cet été. Alors, je vous présente Sonia Hamza, une ergothérapeute hors pair qui va se présenter.
Bonjour Guylaine, merci pour la belle présentation. Donc je suis ergothérapeute depuis 2000 en fait et j'ai développé une expertise avec les enfants qui ont des besoins particuliers et qui présentent différentes problématiques au niveau du développement. La particularité à la clinique, ma clinique, c'est Alternative Caméléon. Donc, nous, on est situé à Rosemère, mais la particularité, c'est qu'on se déplace directement dans le milieu de vie de l'enfant. Donc, on va aller soit dans les écoles directement, travailler avec les enseignants, ou encore en garderie, en CPE, avec les éducatrices spécialisées, et également à la maison pour travailler avec les parents. Donc, l'objectif à la clinique, c'est vraiment de pouvoir travailler tout le monde ensemble et avoir des stratégies qui font que l'enfant va être fonctionnel dans tous ses milieux de vie avec ses particularités. Alors, c'est pour ça que je me suis associée avec Guylaine pour vous parler un peu aujourd'hui de notre podcast et des prochains épisodes qui s'en viennent pour soutenir les familles avec des enfants à besoins particuliers.
Dans le but de, bien sûr, répondre à plusieurs besoins qui arrivent cet été, Sonia et moi, on a eu plusieurs demandes mai-juin. Bon, comment on occupe notre été, malgré les camps de jour, malgré ci, malgré ça, les vacances, les campings? Donc là, on a décidé, après plusieurs années, qu'on se référait mutuellement des clients. On est en mode complémentarité. Donc, Sonia fait plein de trucs magiques que je ne fais pas et vice-versa. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'associer pour justement donner ces trucs-là en ligne à ces parents-là, ces grands-parents-là, ces parrains-marraines-là qui parfois sont démunis face à différentes choses. Il y a parfois des familles qui décident, par exemple, de réduire ou d'arrêter les médications l'été. Donc là, on se dit, oh, OK, alors là, il y a des différentes tangentes, différents comportements qui vont arriver. Il y a aussi l'adaptation. L'école vient de terminer, ça fait même pas une semaine. Donc là, c'est normal que tout le monde fasse « Oh boy, qu'est-ce que je fais cet été? Comment on planifie ça? Comment on organise ça? » Alors là, on a décidé de se mettre ensemble pour justement cogiter et vous donner des outils qui sont peut-être différents de les années dernières parce que plus on en apprend en neurodiversité, plus notre but c'était ça, de vous offrir un moment, une capsule d'information parmi notre podcast pour vous dire comment la science voit la neurodiversité, comment on outille justement toutes les gens qui travaillent, même parfois des éducateurs, avec des enfants neurodivergents. Alors, étant donné que Sonia, comme elle disait, depuis 2000, donc 26 ans qu'elle fait ce qu'elle fait, moi, ça fait 96, donc une trentaine d'années, on met ensemble toutes nos compétences, nos connaissances, nos expériences, qu'on continue aussi de se former pour venir en aide, en assistance, en support à vos besoins divers. Donc, voilà pourquoi on a décidé de créer ce podcast de Cerveau unique en équilibre pour répondre à différents besoins de cette population en besoin de rééquilibre avec ce qu'on vit avec l'école qui vient de se terminer.
Exact. Puis pour aller un peu dans le même sens que Guylaine, en fait, on voulait vous expliquer, nous, on a dans l'idée de faire plusieurs podcasts pour justement informer. La première capsule aujourd'hui va être en lien avec l'été. Hein, les activités qu'on peut faire avec nos enfants qui présentent des particularités de développement. On sait que des fois, ça peut être très chargé à la maison comme parent. Mais je tiens quand même à vous présenter un peu notre façon de faire dans les podcasts. C'est-à-dire que dans nos 10 épisodes, nos objectifs, c'est vraiment aussi de mieux comprendre la neurodiversité et d'être capable de vulgariser, je pense, parce que plusieurs parents, on constate dans notre clinique, se sentent démunis. Des fois, ils reçoivent le diagnostic, par exemple, un diagnostic de TSA ou de TDAH. On en parle de plus en plus, mais les parents demeurent souvent un peu devant le néant en ayant, par exemple, un rapport en neuropsychologie, mais sans toujours savoir quoi faire, comment organiser l'enfant, comment l'outiller. Et donc, notre objectif, c'était un peu de venir en aide aussi avec des petits trucs dans nos capsules sur à peu près 10 épisodes, hein, Guylaine, qu'on voulait faire. Et
ça va être un excellent début, oui.
Exact. Et on voulait aborder plusieurs thématiques, dont, entre autres, pour ma part et en expertise avec Guylaine, il y avait l'autorégulation émotionnelle et sensorielle. Donc, on a beaucoup de choses à parler au niveau de l'ergothérapie et de la modulation des enfants. On voulait parler aussi de tout ce qui est au niveau des étapes de développement, donc du neurodéveloppement, certaines approches des fois un peu plus ciblées, pourquoi on irait chercher des services avec différents types d'approches neurodéveloppementales. On voulait parler des trucs, stratégies au quotidien avec la famille, plus au niveau de l'organisation des activités ou de la préparation aussi aux devoirs quand on sera rendu à l'automne, comment aborder des fois des situations plus complexes, même au niveau des AVQ, de l'alimentation, de l'habillage. Donc, vraiment des trucs du quotidien avec un peu de coaching aussi au niveau familial.
Soyez indulgents avec nous parce que ça se peut que parfois on se perde un peu dans nos termes. Donc, AVQ, comme Sonia vient de nommer, veut dire activité de vie quotidienne. Il y a aussi les activités de vie domestique. Sonia, ce que j'aimerais vraiment de ta part, puis ça c'est un bout que moi je fais pas, c'est que tu nous expliques un peu ton évaluation. Tu arrives en CPE, mettons, tu arrives dans une école. Toi, tu as besoin de voir l'enfant, tu as besoin de questionner les éducatrices, la directrice. Mais ensuite, tu fais quoi, toi, directement, comme ergo, avec l'enfant pour le bout évaluation?
En fait, quand il me consulte pour une évaluation en ergothérapie, par exemple, en milieu de garde, je vais faire une évaluation au niveau sensorimoteur, donc les aspects plus sensoriels. Est-ce que l'enfant a des particularités dans son développement sensoriel qui peuvent expliquer les difficultés de comportement souvent qui sont observées en bas âge, où on a pas de diagnostic encore, mais où on peut voir que l'enfant a plus de difficultés à s'adapter, par exemple, au groupe, dans ce qui est présenté au cours de la journée. Et on va faire des évaluations au niveau de la motricité, donc beaucoup la motricité globale, la motricité fine, et on va regarder tout ce qui est des activités de la vie quotidienne, comme tu as tantôt bien expliqué. Donc, est-ce que l'enfant est capable de s'habiller de façon autonome, dépendamment de son niveau d'âge, bien sûr? Comment se passent aussi les repas, l'alimentation à la garderie? Il y a des enfants qui veulent pas manger, qui refusent, qui vont pousser leur assiette, qui vont réagir plus au niveau des demandes aussi de l'éducatrice, par exemple. Donc, on va couvrir, l'ergo, c'est beaucoup le fonctionnement de l'enfant dans son milieu. Alors, à titre peut-être juste indicatif, on va souvent, beaucoup d'ergothérapeutes vont souvent travailler avec un modèle qu'on appelle le PEO, que je trouve super intéressant, qui est le modèle de la personne. Donc là, je vous ai parlé de l'aspect, par exemple, sensoriel, moteur. On peut regarder aussi au niveau cognitif, bien que dans des évaluations plus ciblées, on aura besoin d'avoir à ce moment-là une psychologue ou une neuropsychologue. Il y a des actes réservés aussi selon les professionnels. Et il y a la sphère du langage. On travaille beaucoup en complémentarité avec les orthophonistes. Et puis, la sphère affective, hein, Guylaine comme psychoaide. Donc, cet aspect-là aussi au niveau des des évaluations de l'enfant. Et là, nous, comme ergo, on va prendre ça, on va regarder l'occupation et on va regarder l'environnement. Et notre objectif, c'est que dans le centre, là, je ne sais pas si vous pouvez vous l'imager, trois sphères qui sont interreliées. Et dans le centre, on a ce qu'on appelle le rendement occupationnel de l'enfant. Alors, notre but, c'est de travailler pour que l'enfant soit le plus autonome possible. Et de là, on va dégager un plan d'intervention en ergo et on va mettre des choses en place avec toute l'équipe pour augmenter l'autonomie de l'enfant et sa disponibilité dans le jeu, par exemple, en garderie. Est-ce que ça répond à
100%. Et Sonia, tu viens de dire le mot disponibilité.
Oui.
Justement, quand on a des enfants neurodivergents, parfois, on se rend compte, oh, il se passe quelque chose au niveau scolaire. Donc là, à un moment donné, comme pour toi, le parent appelle et fait à l'aide, mais on est en attente de diagnostic. Mais nous, justement, au Québec, présentement, les attentes, c'est assez laborieux. Donc, moi-même, ayant trois enfants neurodivergents, quand j'ai appris qu'on était sur une liste d'attente et que l'école se pouvait plus, avait besoin de trucs, je suis allée consulter. Et c'est là que j'ai appris, oh là là, il y a des déclencheurs dont je ne me rendais même pas compte en tant que parent, parce que mon enfant n'est pas en mesure de nommer ce qu'il fait, qui n'est pas disponible en classe ou en CPE. Donc, parfois, un enfant neurodivergent peut avoir faim pendant des heures, mais il est tellement préoccupé par son jeu qu'il ne s'en rend pas compte. Il peut avoir envie encore, puis il est dans le carré de sable, puis là, il ne faut pas qu'il rentre dans la maison parce que là, son petit camion ne va pas marcher dans le sable. Et là, il est pris dans son lui-même à ne pas vouloir quitter le jeu et pas pouvoir aller à la salle de bain, ni même décoder qu'il a envie ou qu'il a faim ou qu'il a chaud. Donc, en apprenant tout ça, pendant que j'étais en attente pour les diagnostics ou les évaluations de mes enfants à moi, je suis allée consulter des gens comme toi. Je ne te connaissais pas à l'époque, malheureusement, parce que tu aurais été ma championne, c'est sûr. Mais j'ai appris c'était quoi les réflexes primitifs, les réflexes intégrés ou pas intégrés chez les enfants, parfois, qui ont des TDAH, qui ont des traits TSA. Et j'ai appris que ça se peut qu'il fasse une crise, l'enfant, dans le parc parce qu'il ne veut pas partir. Mais dans le fond, c'est parce qu'il a peut-être envie d'aller dire bonjour à quelqu'un, puis il n'avait pas les gosses d'y aller depuis 2 heures, mais tout d'un coup, il vient d'avoir les gosses d'aller dire bonjour, de se présenter, parce que peut-être que l'ami va être là demain, mais il ne peut pas nommer ça. Donc là, il fait une crise de « je ne veux pas partir », mais il n'est pas capable de nommer de pourquoi. Donc nous, notre rôle, Sonia, à toi et moi, est de façon différente. On est capable d'aider les parents à décoder c'est quoi les déclencheurs. Parce qu'on a un œil, nous, global, du contexte dans lequel l'enfant est. C'est pour ça qu'on va appeler les écoles, on va appeler les professeurs, on va appeler le coach sportif pour se renseigner avant ou pendant qu'on évalue cette famille-là, pour être capable de mettre les bons moyens en place pendant qu'on est en évaluation, à savoir s'il y a ou pas un diagnostic et éventuellement s'il y a ou pas recommandation de médication. Donc, dans ton cas, Sonia, si tu peux m'indiquer dans tes termes à toi d'ergo, qui bien sûr j'en apprends tous les jours aussi, quand tu as déjà fait l'évaluation, toi, est-ce que tu es capable d'aller dans les écoles et d'appliquer ce que tu as besoin d'appliquer avec les professeurs, comme des coachés directement, comme tu fais en mode parent? Parce que parfois, il y a plein de termes qu'ils ne connaissent pas aussi, parce qu'eux, ils ont leur expertise, nous, on a la nôtre. Puis c'est quoi qui arrive quand tu arrives dans l'école? Tu dis « Oui, bonjour, prof, maintenant, j'arrive avec mes gros sabots et… » Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là?
C'est intéressant parce que là, on parle vraiment des différents milieux de vie. Hein. Puis on sait comment, pour la réussite d'un enfant qui présente des besoins particuliers, il faut vraiment qu'on s'arrime tous ensemble. Et tu vois, ce matin, j'avais justement une rencontre avec d'autres intervenants, avec l'équipe école, et c'est ce qu'on se disait. Donc oui, je trouve qu'en 2026, parce que quand j'ai commencé, il y avait peut-être un peu moins d'ouverture dans le sens où on connaissait moins les problématiques. Mais maintenant, il y a beaucoup, beaucoup d'ouverture et tout le monde voit l'importance de se réseauter, de comprendre et de cogiter ensemble pour faire des plans d'intervention qui répondent vraiment aux besoins des enfants. Alors moi, dans les écoles, soit que je fais l'évaluation, par exemple, au privé, à la maison, et je vais aller présenter le rapport d'évaluation avec les recommandations. Mais ce que j'aime dans mon travail, c'est que je vais m'ajuster avec les réalités, la réalité scolaire. Donc, dépendamment de ce qui va, par exemple, il y a des écoles qui vont commencer l'écriture attachée en première année, alors que d'autres vont le faire en deuxième année. Alors, il y a beaucoup de particularités, autant dans l'environnement que dans les choix d'équipe école sur les stratégies d'apprentissage à mettre en place et le fait de pouvoir travailler pour un enfant avec sa propre école, son propre milieu, c'est extrêmement gagnant pour l'enfant. Donc, j'ajuste mon analyse, comme je vous expliquais tantôt, par rapport à ça. Mais tu sais, Guylaine, le temps avance vite dans notre présentation et dans le fond, ce qu'on voulait nommer, c'est que tous ces sujets-là qu'on couvre aujourd'hui dans notre introduction, on veut les aborder de façon plus détaillée, en profondeur, dans 10 épisodes, dans le fond, podcast de Cerveau unique en équilibre, où on va aller chercher vraiment toutes les sphères comme ça du développement de l'enfant, des différentes problématiques, dans le but de soutenir les parents et les intervenants. Et on aura toujours une partie plus neurosciences explicative, une partie probablement plus exemple concret de difficultés vécues par l'enfant avec nos propres expertises, puis peut-être avec aussi ce qu'on a en clinique, les questions qui sont fréquemment posées par les parents. Et de là, on va essayer vraiment, notre souhait, c'est de vous donner des vraies stratégies pour que vous puissiez les essayer dans votre quotidien, changer un peu la vision du monde à notre façon.
C'est excellent le point que tu amènes, Sonia, j'adore. Puis surtout dans des moments de transition. T'sais, là, on parle de n'importe quel genre de transition. Ça peut être un vendredi soir, là, on transitionne entre le moment CPE-école et boum, la fin de semaine, où on est dans les vacances de Noël. Là, ça donne qu'on est dans l'été. Fait que ce moment de transition-là fait en sorte qu'on est tout un peu désorganisé parce que les enfants viennent de vivre plein de trucs différents. T'en as, moi j'en ai, ça se peut qu'on parle d'examen du ministère, ça se peut qu'on parle de graduation de sixième année, on s'en va au secondaire, on s'en va à l'université, on s'en va n'importe où. La neurodivergence apporte un aspect hyper particulier. C'est pour ça que j'aimerais que tu nous expliques exactement en neurodiversité, avec les nouvelles recherches qu'on fait, les formations qu'on fait, toutes les deux différentes, avec nos différentes forces. Selon toi, là, avec l'expertise que tu as, peux-tu nous expliquer un enfant TSA? Ça serait quoi les traits principaux généraux qu'on verrait, mettons, actifs, puis que là, le parent dirait « Oh là là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin que vous m'aidiez avec cet enfant-là, il est désorganisé, la transition se passe pas tant bien entre l'école CPE et boum, l'été. » Tu verrais quoi comme trait?
Bon, c'est sûr que c'est vraiment important aussi de comprendre que chaque enfant est unique. Là, on fait des podcasts dans le sens où on veut informer les parents, mais je suis pas là pour donner un diagnostic comme ça en podcast. J'ai pas vu les enfants, mais je peux vous dire les traits généraux d'un enfant qui aurait un trouble dans le spectre de l'autisme. Donc, généralement, ce sont des enfants qui, au niveau de la communication, on appelle ça la communication sociale réciproque. C'est plus difficile pour eux d'être capable de lire un peu les intentions de l'autre personne. Donc, si le parent a une attente X et que l'enfant décode pas bien l'attente du parent, c'est sûr que la réponse sera pas toujours adaptée. D'autres particularités chez les enfants TSA, c'est que souvent, ils vont avoir certains intérêts plus spécifiques qu'ils vont, par exemple, développer parce que c'est ce qu'ils aiment, mais avec un peu parfois de difficultés à s'adapter à des jeux sociaux qui sont différents de leurs intérêts.
Est-ce que Sonia, tu veux dire que parfois, il y aurait peut-être de la difficulté à se grounder, donc ils ont besoin d'un truc sensoriel pour se ramener à eux-mêmes avant qu'on leur demande une consigne, une tâche?
Donc là j'étais plus dans les critères au niveau un peu diagnostique, si on veut. L'autre aspect qui est très, très relié avec les enfants TSA, c'est des particularités sensorielles. Donc, tu as raison que ça peut jouer aussi. Si l'enfant se sent pas bien dans son corps, qu'il n'y a pas, on appelle ça une bonne proprioception, entre autres, ce qui arrive, c'est qu'il va avoir de la difficulté à être plus disponible. Mais ça, c'est vraiment par des évaluations plus ciblées. Donc, pour être capable de mettre un diagnostic de TSA ici au Québec, c'est important de comprendre que ça prend soit une équipe multidisciplinaire. En général, c'est par le C3S. Et à ce moment-là, ils vont être vus. Généralement, c'est par une ergo, une orthophoniste au départ ou une psychoéducatrice qui vont faire les premières évaluations développementales. Et par la suite, ce sera avec le médecin, soit le pédiatre ou un médecin spécialisé au niveau du développement. Et avec toute l'équipe, ils vont regarder toutes les sphères, dont ce qu'on se parle qui est le plus en lien avec le TSA, bien sûr, c'est l'interaction sociale. L'interaction dans la communication aussi, la compréhension, comme je vous disais, des attentes de l'environnement et les intérêts, les jeux sociaux. Donc ça va être quand même exploré. Et si on n'a pas accès au public parce que malheureusement, tu le sais, hein, les listes d'attente sont encore longues, même s'il y a eu une certaine amélioration dans les services Agir tôt maintenant depuis les dernières années, demeure pas moins que beaucoup de familles sont en attente puis se posent des questions puis c'est insécurisant. Hein, Guylaine, je ne sais pas ce que tu en penses, cette partie-là.
Pour l'avoir vécu personnellement trois fois, oui, en effet. Ouais. C'est pour ça que malheureusement et financièrement, j'ai dû me tourner vers le privé.
Exact.
Il y a plusieurs façons de faire, mais là, comme Sonia, tu disais tantôt, c'est sûr qu'on ne peut pas poser un diagnostic comme ça à la légère, mais ce qu'on veut, dans le fond, c'est outiller le parent. Là, on parlait de TSA. Est-ce que tu peux nous faire un bref portrait brossé d'un enfant qui aurait, là, on a des nouveaux diagnostics aussi, TDAH et ou hyperactivité et ou impulsivité, que nous, quand on a fait nos bacs, ça n'existait pas, ce terme-là, ça existe maintenant. Et puis, étant donné que le DSM-5, dans le fond, c'est notre gros livre de référence à nous pour savoir, OK, on s'enligne comment avec tous ces traits-là et les besoins de ces enfants-là. Explique-nous un peu un portrait, on verrait quoi d'un enfant TDAH par rapport à ses traits à lui?
OK, fait que là, je voulais juste revenir sur, je vais répondre à ta question, mais une certaine nuance. Donc là, il y avait les réseaux publics, on parlait des listes d'attente, mais je voulais juste terminer. Un parent qui voudrait avoir un diagnostic pour voir si son enfant a un TSA, à ce moment-là, doit aller voir un neuropsychologue. Donc, ce n'est que le neuropsychologue qui peut mettre le diagnostic du trouble dans le spectre de l'autisme. Alors moi, en ergo, je peux pas mettre de diagnostic, mais je peux contribuer à l'évaluation, que ce soit pour un enfant TSA ou un enfant qui a un TDAH ou autre troubles de développement. Et l'orthophoniste va faire le bout du langage, qui est souvent très, très complémentaire. Et de là, en neuropsy, s'il y a lieu, ils vont confirmer les diagnostics. Maintenant, un enfant qui a un TDAH, ça aussi, ça va être posé plus tard. Hein. Maintenant, c'est souvent autour de... Les psychologues vont dire pas avant 6 ans, 6, 7 ans. Pourquoi? Parce qu'on est dans un ère où il y a eu beaucoup de diagnostics de TDAH. Et moi, ce que j'ai compris avec les années, Guylaine, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est qu'il y a beaucoup, surtout que toi, tu es spécialiste au niveau de la sphère émotionnelle. Il y a beaucoup d'affectifs aussi dans le TDAH. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans un diagnostic trop vite. Nous, en ergothérapie, on va souvent regarder les aspects sensoriels qui vont, comment je peux dire, aider l'enfant à être plus disponible. Moi, j'aime mieux parler de ça. Donc oui, un enfant qui a un TDAH, ce qu'on sait, c'est que l'attention va être plus fragile. Donc il y a l'attention visuelle, il y a l'attention auditive, il y a l'attention soutenue. Il y a l'hyperactivité. L'enfant va être plus en mouvement, va être moins groundé dans son corps. Il y a l'impulsivité qui peut faire en sorte que l'enfant est brusque, hein, dans ce qu'il va mettre en place ou dans ses rapports avec les autres, sociaux, etc. Et là, oups, il y a de la misère à écouter les demandes ou il va être réactif. Il va avoir plus d'opposition. Des fois, ça arrive aussi. Tout ça peut faire partie d'un diagnostic de TDAH. Mais quand ils sont jeunes, moi, ce que j'aime, c'est qu'en ergo, on peut mettre beaucoup de modalités sensorielles en place pour aider l'enfant à être plus disponible. C'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. T'sais, là, on veut parler, hein, Guylaine, des diagnostics, juste pour mettre un peu la table, mais on s'entend que dans les interventions, on est plus dans des stratégies concrètes pour augmenter la disponibilité de l'enfant, peu importe le diagnostic. Donc, voilà.
Et absolument, Sonia, avec ce que tu dis, ça m'amène à justement souligner une de nos particularités. Toi, t'es vraiment enfant, là. Zéro, quel âge, Sonia? Toi, c'est vraiment ton âge d'expertise?
Je dirais 0, 13 ans. L'expertise que j'ai développée, c'est beaucoup 3, 8 ans. On a beaucoup de références, 3, 4, 5, 6 ans. 7, 8 en écriture. Oui, exact.
Justement, c'est ça qui fait que j'avais tellement envie de faire ce podcast-là avec toi. Cerveau unique, honnêtement, là. Toi, tu fais vraiment le bout beaucoup plus jeune que moi. Moi, là, les ados, les parents, c'est là que je suis vraiment dans mon créneau d'expertise. Justement, pour avoir un créneau d'expertise en choc post-traumatique, pour avoir travaillé il y a longtemps à l'hôpital Sainte-Anne de Bellevue, à la DPJ, etc., etc., c'est vraiment quand, moi, mes enfants ont eu leur diagnostic que j'ai réalisé, oh là là, OK, c'est vraiment la régulation émotionnelle qu'on a besoin, même dans mon champ d'expertise. Fait que là, je suis allée chercher des ergots pour plus jeunes, parce que c'était pas tant mon champ d'expertise ou d'intérêt. Je l'ai développé avec les années. Mais c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant de faire ce boulot avec toi, parce que ton expertise, puis justement le nom de ta compagnie, écoute, Caméléon, il n'y a rien de plus parfait, parce qu'on doit nous s'adapter à nos enfants neurodivergents, aux parents qui, parfois, n'ont pas de diagnostic, sont neurodivergents. Alors, comment leur faire appliquer un plan d'intervention, par exemple, un plan de match, mais quand eux, ils ont des difficultés à régulariser leurs propres émotions de un, à gérer le temps. Ça, on le sait, les TDAH, on a le défi avec le temps. Moi, c'est pour ça que je dis « wow, avec toi, c'est go ».
Puis j'ai le goût de te dire, Guylaine, toi, par rapport à, mettons, aux familles, si on regarde ce bout-là que l'on a parlé, bon, on peut juste peut-être rapper un peu les enfants, donc ça nous donne une idée, TSA, TDAH, particularité sensorielle, pourquoi durant l'été c'est plus difficile. Et moi, j'ai le goût de t'entendre aussi sur ce bout-là dans le soutien. C'est quoi le type de soutien? Parce que je sais que tu as beaucoup d'expérience en coaching, plus en coaching familial. Toi, tu adresserais ça comment avec la famille, par exemple? Des enfants qui ont des particularités durant l'été. Comment tu verrais l'organisation familiale?
Dans le fond, moi, dans mon premier geste, si on veut, j'évalue vraiment la sphère générale de vie, à quel point elle est équilibrée ou non. Donc, si on prend une clémentine dans notre main, tout le monde, là, 1, 2, 3, go, il y a 8 quartiers. Et c'est comme ça pour une vie. C'est quoi l'aspect nutrition? C'est quoi l'aspect sommeil? C'est quoi l'aspect sport? C'est quoi l'aspect vie familiale, qualité avec les proches, avec les amis? C'est quoi l'aspect travail? Parce que l'enfant, on veut qu'il apprenne des choses cet été. C'est quoi l'objectif qu'on veut atteindre? Est-ce qu'on veut qu'il réussisse à communiquer mieux? Est-ce qu'on veut qu'il réussisse à écrire mieux? Est-ce qu'on veut qu'il réussisse à faire des amis?
Je te lance une question. Ouais. Mettons, durant l'été, là, on part. Là, les parents, ils ont un enfant qui a des difficultés. Ça bouge partout. Moi, j'ai deux garçons. Je sais aussi la dynamique peut être comment. Donc, ils bougent, ils sautent, ils s'amusent, ils se bousculent, ils font des sports. Puis le parent se sent facilement dépassé. Comment tu peux adresser ça? Mettons qu'on veut te donner des stratégies concrètes là, pour les parents. On arrive, on a des enfants qui sont pas finalement structurés parce qu'on sait que ces enfants-là ont plus de difficultés. Hein? On parlait de l'autorégulation émotionnelle, mais la structure aussi durant l'été qui est tellement différente que durant l'année scolaire, hein, tous les repères finalement vont comme un peu disparaître, hein, dans l'environnement de l'enfant. Donc toi, là, si t'as une famille qui vient de voir une maman ou un papa qui est sur le bord du burn-out au début de l'été, toi, t'adresses ça comment? C'est quoi les trucs, là, les grandes lignes que tu pourrais leur adresser pour les aider à mieux s'organiser durant le temps estival?
Bien, moi, j'adore ta question parce que justement, c'est ça qui arrive toujours. C'est pour ça que je travaille dans l'urgence. SOS, hypnosis, c'est urgence. Il arrive quoi maintenant? Bien, le parent, attends une minute. C'est quoi ton besoin à toi? Oui, tu es en burn-out. Attends une minute. Pause. Avant de mettre ce gros mot-là, il se passe quoi? Bien, il se passe que moi, mon travail, il se passe que moi, ma vie, il se passe que moi, mes enfants. OK, attends une minute. Le parent, toi, tu n'es pas disponible à toi-même présentement. OK? Fait qu'on va. On va mettre sur pause le besoin qu'ont tes enfants d'avoir une structure. Toi, présentement, t'es pas disponible pour mettre une structure en place. Et moi, je vis pas avec toi, le parent. Fait que j'ai besoin de t'outiller toi, de grounder toi dans comment tu te sens dans ton, le gros mot anglais, le overwhelm, t'es dépassé. Attends une minute, c'est quoi que t'es dépassé? T'es en colère parce que tout d'un coup, le camp de jour, il marche pas. T'es triste parce que il se passe XYZ de billet d'avion qui a pas fonctionné. Fait que je dois grounder le parent dans lui-même pour que lui soit disponible et soit un pilier de référence pour son enfant. Fait que c'est toujours ça. Moi, je vais toujours voir l'individu en premier.
Donc,
c'est quoi son besoin à lui pour qu'il soit disponible pour mettre en place okay. notre plan de match.
Puis si on fait un exemple ensemble, mettons on a un parent là, qui nous écoute là, puis qui se sent exactement comme tu viens de dire. Peux-tu me faire un exercice de qu'est-ce que tu dirais aux parents? Mettons, je veux le faire, je me prête à ton exercice. OK? J'imagine c'est un peu
inspiré
de la pleine conscience. Un peu oui. comme de la pleine conscience. Oui. Peut-être que tu peux expliquer un peu c'est quoi la pleine conscience. Puis qu'est-ce que tu... Mets 2-3 minutes d'exercice de recentrage, si on peut dire.
Voilà, tu dis le mot pleine conscience, justement. Quand on est capable de prendre 2 secondes et de prendre une inspiration et d'aller voir, je me sens comment là, le parent. Ben attends une minute. Là, je vais juste atterrir, là. Puis je vais m'asseoir les 2 fesses sur ta chaise dans ton bureau parce que des fois, j'ai juste une fesse. Le parent est encore dans le trafic, dans tantôt, dans la liste d'épicerie de plus tard. Atterris-toi, là. Mm-hmm. Toi, t'es comment présentement? OK, je suis dépassée. J'ai besoin d'aide. Les enfants, cet été, quoi? OK, parfait, garde. Vu que c'est difficile pour toi le temps et de garder ta montre, même si t'en as 10 accrochés à ton poignet, est-ce qu'on peut faire un horaire qui est plus libre? C'est sûr que les enfants, il faut qu'ils mangent. C'est sûr que les enfants, il faut qu'ils se reposent. C'est sûr qu'il faut qu'ils se ground hors de ton champ de vision pour que toi aussi, tu te reposes. Il faut qu'ils fassent l'exercice. Fait que si on fait un horaire qui est ouvert du lundi au vendredi, fait qu'entre 9 et 11, ben, on a un lever, on a un déjeuner, on a la petite tâche de rendre sa chambre revisitable par d'autres amis, par exemple. T'sais, on ne veut pas nécessairement que toute la routine soit ancrée dans le béton comme pendant l'année, mais on veut qu'il y ait un minimum de points de référence, justement, comme tu nommais tantôt.
Donc, tu ferais-tu un horaire? Un coup que le parent est groundé, donc là, on a parlé de... Hey. Attends, je vais résumer. Être bien assise, mettons qu'on le fait au niveau des...
Donc, les deux pieds par terre.
On a les pieds idéalement qui sont par terre. Donc, bien assis à 90 degrés, nous, on va dire en ergo. On a les ischions bien aussi sur la chaise. Donc, on se sent dans son corps. On le fait ensemble, on ferme les yeux et on pourrait prendre deux respirations. On le fait, OK? On l'essaie. Donc, on y va, on prend.
Ah, je laisse aller tout ce que j'ai plus besoin. Et je m'ouvre tranquillement à mon besoin présent pour l'été. En tant que parent qui veut se ressourcer cet été et qui veut continuer d'apprendre à son enfant neurodivergent ce qu'il a besoin pour lui-même être hyper fonctionnel dans sa vie à son niveau, avec ses besoins à lui.
Donc là, je me suis campée, je laisse aller la pression, je laisse aller la performance,
voilà.
Je me ressens dans mon être. Et une des stratégies que tu as parlé tantôt, c'est de faire un horaire, peut-être un horaire visuel, mais ouvert. C'est-à-dire avec les grandes lignes du matin, de la matinée, des repas, du dîner et de l'après-midi. Est-ce qu'il y a une sieste ou pas? Et là, on vient mettre nos activités de façon un peu plus structurée, mais sans l'être trop aussi. Et est-ce qu'on pourrait mettre ça sur le calendrier, sur le frigo, par exemple, pour que l'enfant puisse le voir, pour qu'il y ait un repère visuel?
Moi, c'est une super idée, mais en plus, on veut qu'il contribue. Alors, si on lui donne son crayon magique à lui, où il peut aller faire son crochet quand il a fait son activité de déjeuner. Ensuite, il a fait son activité de manger sa collation qui était déjà prête, protéinée, légumes, fruits. Il fait son autre crochet. Puis ensuite, il a fait son activité sportive la journée. Il est allé dans la piscine, il a fait ses push-ups, ses sit-ups, sa trampoline. Parfait, un autre crochet. Bien, pour cet enfant-là, de cet âge-là, on va dire 5 ans, bien, il a ses trois crochets. Parfait, il se mérite son collant en fin de journée. Good.
OK, donc là, si je comprends bien, mettons qu'on prend un enfant de 5 ans, 6 ans, on lui fait faire un crochet après avoir réussi ou participé, ou peu importe comment on le nomme, avoir fait l'activité avec le parent. Et quand il a 2-3 crochets, pas trop non plus, là, il a le droit à avoir une petite récompense qui peut être définie avec le parent, soit un collant, comme tu dis, pour venir comme renforcer un peu la participation aux activités qui sont proposées en famille.
100%. Puis ce qu'on vise à n'importe quel âge, c'est l'autonomie et l'indépendance au niveau de l'âge qu'il a. Alors, comme toi, en ergo, ce qu'on veut, c'est éventuellement une motricité fine qui est hyper utile à l'école pour ce qui est de l'écriture. Mais l'été, on vise beaucoup la motricité globale qui va réunir les deux hémisphères de cerveau ensemble pour qu'il soit disponible pour septembre. C'est cet apprentissage-là qui est vraiment nécessaire. Donc, qu'il participe avec le parent en supervision, mais qu'il fasse des bouts d'autonomie. Donc, si son activité d'apprentissage à lui, c'est justement motricité, on veut lui donner, à 5 ans, les plus gros Legos. Quand il a fait ça, on lui a dit « OK, bâtis-moi, je ne sais pas, un avion à ton niveau. » Puis le parent, à ce moment-là, il fait sa vaisselle ou il prépare le pique-nique pour tantôt aller au parc. Bien, tu l'as fait, ton Lego, parfait, mets ton crochet, je vais aller superviser tantôt. Mais il y a un bout où l'enfant est seul et le parent est seul. Mm-hmm. Ce que je vois souvent dans mon bureau, c'est le parent qui dit « Mais j'ai jamais le temps de… » Bien, parfait. Est-ce que tu as mis ton time timer, ton micro-ondes, ton truc qui sonne, ton alarme, pour dire « Là, t'es 5 minutes avec toi-même et tes Legos. Quand ça, c'est fait, tu viens faire ton crochet. » Et quand moi, j'ai fini ma tâche, tu peux m'aider si tu veux à essuyer la vaisselle. Quand moi, j'ai fini ma tâche, là, je vais superviser la tienne. Fait que l'enfant n'a pas assez de temps seul. Ou, malheureusement, souvent, on leur donne accès à XYZ technologie pour qu'on ait un moment de souffler. Mais il se passe quoi avec ça? Ça, c'est un autre podcast qu'à un moment donné, on va rentrer. Mais ce qu'on veut, c'est viser l'autonomie en disant, bien, tu as fait ta part, tu as essayé. Selon toi, tu as terminé ta tâche d'avoir bâti un avion Lego. Excellent, fais ton crochet. Puis moi, si t'es prête, je passe à la prochaine activité pendant que moi, je termine ma vaisselle.
Absolument. Puis ce que tu nommes, Guylaine, pour l'été, je trouve ça vraiment important parce que quand on a parlé tantôt des intérêts spécifiques en TSA, entre autres, on sait que les enfants vont vouloir faire des choses qui sont plus spécifiques, comme je disais, à certains jeux, par exemple. Et ce qui est dur, c'est de les sortir de ce cadre-là pour les amener à faire autre chose. Par exemple, si un enfant aime faire des Legos et là, ensuite, on met une activité de motricité globale d'aller au parc, ça se peut que l'enfant fasse fasse une crise parce qu'il n'a pas envie d'arrêter de jouer avec son Lego. Et là, moi, ça m'a permis, ce que tu as dit, d'avoir l'idée de dire, bien, si on met le temps avec l'enfant, donc toute la prévisibilité de l'horaire, hein, quand on parle d'enfants neurodivergents, TSA, même TDAH, difficulté d'autorégulation émotionnelle, ça, je trouve personnellement que c'est un enjeu vraiment important. C'est que le parent, on est tellement pris dans notre quotidien, tellement, que là, on dit, là, c'est le temps, là, on s'en va, là, viens-t'en, là. Oui, mais l'enfant, il n'a même pas eu le temps, lui, de computer l'information du début et de la fin de l'activité. Et déjà, on veut lui demander une transition qui peut-être ne l'intéresse même pas. Et là, on se questionne après, mais voyons donc pourquoi il fait une crise, pourquoi il ne veut pas. Et là, on est pris avec la situation à gérer plus émotionnelle. Donc, quand on parlait des déclencheurs tantôt, c'est un peu ça l'idée, hein? C'est de dire, est-ce que je peux mettre un certain soutien visuel, puis une certaine structure, une certaine prévisibilité pour éviter les déclencheurs chez mon enfant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu adresses aussi
en intervention? Et comme toi, il faut mettre des moyens d'adaptation. C'est pour ça que je nommais le time timer tantôt, parce que c'est vraiment un outil visuel que l'enfant peut prévoir. OK, ben il me reste 10 minutes, il me reste 5 minutes. Fait que si je voulais dire bye, allô à cet ami-là, j'ai tant de temps pour le faire avant que je doive quitter. La prévisibilité, Sonia, comme tu dis, c'est ça qui justement est un déclencheur chez l'enfant qui n'est pas préparé à. Puis l'enfant, le parent a son horaire dans sa tête à lui, dans son téléphone à lui, mais l'enfant n'a pas ça, lui. Exact. Fait que tout d'un coup, est-ce qu'ils subissent, ces enfants-là, le fait que nous, on est tellement pressés dans la société? Absolument. C'est pour ça que quand on arrive au parc, ben ça prend un moment où lui s'assoit sur ses deux fesses, sur le banc de parc, puis qu'il fasse « OK, ben j'ai une demi-heure ici. Est-ce que je veux aller à la trampoline? Est-ce que je veux aller à la piscine? Est-ce que je veux aller dans le module de jeu? » Bien, qu'il se planifie, lui, sa sortie d'une demi-heure. Parce que ça donne qu'on a juste une demi-heure aujourd'hui.
Donc, lui laisser un peu de contrôle, finalement, oui, puis que dans lui les choix d'activité aussi.
Absolument.
Là.
Puis que lui nous revienne avec, bien, mon plan, c'est ça. OK, parfait. As-tu atteint ton objectif? Le time timer est fini, on doit quitter. As-tu atteint? Ah oh non, finalement, ça a pris plus de temps, ça. Parfait. Donc, pour demain, quand on revient, voici comment on va procéder. Et c'est de le guider là-dedans, dans son apprentissage à lui, d'autonomie, à son niveau.
Absolument.
T'as pas atteint ton objectif? Triste, ça l'arrive, ça m'arrive à moi aussi. Voici comment on prépare la prochaine sortie.
OK. Moi, j'ai le goût d'ajouter l'aspect peut-être du sensoriel pour expliquer. On parlait tantôt des enfants qui ont besoin de bouger pour apprendre. Puis c'est sûr qu'on va faire un atelier, un podcast spécifiquement sur ça. Mais juste pour l'été, juste savoir que des activités, par exemple, sauter sur un trampoline, nous, on utilise beaucoup ça en ergothérapie parce que ça va permettre de pouvoir recentrer l'enfant dans son corps au niveau de toute la conscience, comme je disais, plus proprioceptive. Donc, quand on fait un mouvement linéaire qui est régulier, par exemple, sauter sur un trampoline, c'est régulier, haut, bas, ça vient centrer l'enfant. C'est sûr qu'il peut s'exciter aussi puis partir dans tous les sens. Mais si on peut chanter, on peut compter avec lui, faire des mouvements, par exemple des jumping jacks sur la trampoline, ça va l'aider à se recentrer. Même chose avec des balançoires, où là, c'est un mouvement qu'on va appeler plus vestibulaire parce que le vestibulaire, c'est l'aspect sensoriel plus au niveau de la gravité, au niveau de l'oreille interne et tout ça, sans rentrer dans tout le détail, mais d'avoir un mouvement régulier pour se balancer en avant, en arrière, ça aussi, ça peut aider l'enfant à s'auto-réguler. Fait que quand des fois, on ne sait pas trop quoi faire, je pense que le parc peut être une source vraiment où l'enfant, d'abord, il y a moins de contraintes, il y a beaucoup d'exploration, mais il y a aussi beaucoup d'aspects sensoriels qui peuvent aider l'enfant à se sentir mieux puis à se recentrer.
Écoute, faut vraiment que je t'interrompe, là, c'est fou. Je me sens tellement, tellement en mode que j'ai besoin de partager quelque chose de privé ici. Là, on va l'avouer, là. Moi, là, personnellement, j'ai un gros TDAH, H majuscule, souligné, en bold, tout le kit.
Puis là, tu balances au parc pour te recentrer.
Il faut que je t'en parle de la balançoire. Quand mes enfants ont été évalués, là, c'est ça qui était recommandé. Moi, tu me mets sur une balançoire, je suis malade. Tu parles du vestibulaire, les enfants qui doivent faire de la route. Moi, je leur ai dit des mouvements. Fait que je comprenais donc pas qu'on prescrivait à mes enfants la balançoire quand moi, ça me rend malade.
Je comprends, oui.
Mais là, les enfants, cet été, là, qui doivent aller à l'autre bout du monde, conduire, puis ils sont comme, ben non, tu ne m'assois pas en arrière d'un auto, je vais être malade. Fait que le vestibulaire, Sonia, peux-tu nous expliquer à tout le monde, la balançoire, pourquoi c'est donc utile pour un enfant neurodivergent?
Mais là, c'est un peu complexe, Guylaine, probablement qu'on va l'adresser dans un prochain podcast, parce que j'aimerais
J'ai
ça...
J'ai déjà hâte.
Oui, j'aimerais ça pouvoir l'expliquer de façon détaillée, mais j'ai juste le goût de dire quelqu'un, c'est parce qu'il y a des particularités sensorielles, il peut avoir des hypersensibilités, des hyposensibilités, mais j'ai le goût de terminer sur un petit truc, c'est que si on est en voiture et que l'enfant a mal au cœur, une des choses pour vrai qu'on peut faire, c'est mettre, par exemple, un bidon de lave-glace, et en tout cas, l'important, c'est ou peu importe, mais que l'enfant ait les pieds appuyés pendant le chemin en voiture. C'est ce que
pendant
je veux dire.
Pendant le transport.
Pendant le transport. Okay. Ça, c'est une façon de grounder
comme
grounder l'enfant.
Ses pieds.
Exactement.
Wow.
Ça, c'est un des trucs. Okay. Donc, mais on va pouvoir en reparler de façon plus détaillée parce que c'est tout un volet. C'est extrêmement complexe.
Je ne comprenais donc pas cette prescription-là de balançoire. Parfait.
Ouais. Mais ça, c'est des exemples cliniques. Hein, quand on se parle, le temps passe tellement vite. C'est pour ça qu'on veut faire plusieurs épisodes. Mais en fait, j'espère qu'aujourd'hui, ça l'a éclairé certains parents durant l'été. C'est sûr qu'on pourra couvrir aussi des idées d'activités. Tantôt, tu as parlé de l'écriture, de la motricité fine. Il y a plein de choses qu'on va pouvoir discuter dans des prochains podcasts. Mais aujourd'hui, on a quand même, je pense, donné à aller au parc, avoir un horaire quand même visuel, structuré, comprendre les déclencheurs de l'enfant, aller un peu vers des mouvements sensoriels pour recentrer l'enfant, se grounder comme parent avec la pleine conscience. C'est un peu ça qu'on s'est parlé. Alors, merci Guylaine pour tout ce partage-là aujourd'hui.
Dernier truc.
Oui.
Toujours au parc.
Oui.
Les chapeaux, les gourdes d'eau, les collations. Même si on ne part pas pour un gros pique-nique, toujours avoir quelque chose en cas. Parce que comme on disait tantôt, ils ne se décodent pas quand ils ont faim, quand ils ont soif, quand ils ont chaud. Fait que toujours avoir au moins ces petits outils-là. Sonia, je te remercie infiniment, puis je suis encore plus en amour et épatée de travailler avec toi, puis de continuer à faire des références. Puis ce n'est qu'un début. On espère vraiment vous avoir mis à l'eau, à la bouche, avec tous les trucs, les expertises qu'on a mutuellement et respectivement.
Absolument.
Alors, au plaisir, tout le monde.
Oui, puis on vous invite aussi à nous suivre. Moi, j'ai une page Facebook. Donc, toi aussi, Guylaine.
Absolument.
Est-ce que tu veux nous partager ta page Facebook?
Dans le fond, c'est SOSHYPNOSIX pour le sixième sens. Alors, comment se décoder dans ses émotions? SOS hypnosis. Voilà.
Excellent. Et moi, vous pouvez aller sur mon site Internet, je dis page Facebook, mais c'est plutôt site Internet. Donc, c'est www.alternativecaméléon.ca. Et moi, je vous invite à vous inscrire à la communauté Caméléon. Donc, ça nous permet ensuite de vous envoyer les prochaines thématiques pour les prochains podcasts ou formations à venir. Alors, venez
et
vous inscrire.
Et à bien recevoir vos questions aussi, parce qu'on
Absolument.
Est là pour répondre à vos besoins. C'est notre objectif.
Absolument. Alors, sur ce, je vous souhaite un bel été.
Au plaisir.
Au plaisir.